Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Couleur FM, émission spéciale législative. Toute la semaine, on vous accompagne sur la radio du 97.1 FM pour vous présenter donc ces candidats aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Cette fois-ci, nous accueillons pour le Parti communiste français et le Front de gauche, Monsieur Mehdi Sarraoui et Madame Muriel Laurent. Bonjour à tous les deux. Et je vous remercie infiniment d'être venus nous voir aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer très simplement. On commence de la même manière avec tous les candidats. J'aimerais que vous vous présentiez un petit portrait personnel. Voilà, d'où... Donc, Monsieur Sarraoui, c'est vous le candidat. Commencez. D'où venez-vous? Qui êtes-vous?
Alors, moi, j'ai 22 ans. J'habite à Bourgoin-Jallieu. Je suis né à Bourgoin-Jallieu. Donc, j'ai fait toute ma vie dans cette ville. Aujourd'hui, je suis étudiant en Master 1 de droit public. Et je finis ma formation de juriste à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, donc la CAPI à l'île d'Abo. Et je suis engagé politiquement depuis mes 18 ans, en tout cas depuis que j'ai acquis la citoyenneté où je peux me présenter. J'étais d'ailleurs sur les listes municipales de Bourgoin-Jallieu en 2014. J'ai fait d'autres échéances aussi politiques. Et là, on se lance dans la bataille des législatives avec toujours autant de foi dans nos convictions et dans nos combats. Voilà.
Votre engagement politique s'est toujours fait au sein du Parti communiste?
Alors non, je suis non encarté, donc il s'est fait au sein du Parti communiste assez logiquement, puisque j'ai mené des combats, notamment celui du retour en régie publique, en gestion publique de l'eau sur le territoire de la CAPI. Et j'ai trouvé les élus du PC qui étaient très réceptifs, donc ça s'est fait instinctivement, en fait, notre connexion, mais je suis non encarté.
Et Madame Muriel Laurent?
Oui, donc moi j'habite dans ce territoire depuis plus de 30 ans, j'habite à l'île d'Abo. Je viens de franchir la barre des 60 ans et je suis aussi une citoyenne engagée, non incartée et donc soutenue par le Parti communiste. J'ai tout au long de ma carrière donc à la fois œuvré sur le plan syndical, mais aussi sur le milieu associatif. J'ai été sur l'île d'Abo à la tête d'une grosse association de gymnastique et ensuite... élu sur cette commune, sur les thématiques de l'environnement et de l'habitat. Et donc, c'est parce que j'ai eu toute cette expérience-là qu'il me semble que, il faut absolument s'engager vers un nouveau projet social, environnemental et démocratique, parce que vraiment, ça a toute sa réalité pour ce territoire-là et aussi pour engager un nouveau modèle, comme ça a été le cas par rapport aux élections présidentielles, puisque nous avons soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui défendait ce nouveau modèle social et environnemental.
Alors, c'est parfait, ça fait la transition. On en parlait juste avant l'entretien. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, le Front de gauche, le Parti communiste français. Même plus généralement, on a du mal à s'y retrouver dans toutes nos familles politiques actuellement. Mais alors, comment ça se passe pour vous? Effectivement, vous vous présentez PCF Front de gauche et vous dites « j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon ». Mais la France insoumise va être là aussi.
Oui, exactement. C'est vrai que c'est un peu confus. On est soutenu par le PCF, le Front de gauche Nord-Isère, mais aussi Ensemble et la gauche démocratique et sociale qui est un courant du Parti socialiste. Donc nous on a essayé de faire l'union sur la 10e circonscription. J'ai fait deux communiqués de presse où j'ai appelé à rencontrer tous les candidats de gauche, même la candidate du PS alors qu'on est sur des lignes très différentes, mais pour essayer de faire une union autour d'un programme. Et c'est vrai qu'il y a eu certains échecs. Notamment le plus gros regret que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est avec la France insoumise, puisque nous partageons la globalité de notre programme. Hein. Il y a quelques points où on est divergent, mais même au sein d'une famille politique, il y aura des divergences. Et c'est vrai que on les a rencontrés, on a fait une proposition. J'ai appelé à retirer ma candidature en tant que titulaire pour faire un premier pas pour l'union, puisque ce ne sont pas des candidatures d'égo, mais vraiment de conviction. À l'issue d'un premier rendez-vous, ils nous ont demandé un peu de temps et on n'a jamais eu de nouvelles de la France insoumise. Donc c'est avec regret qu'on a pris cette décision-là.
Et vous avez compris pourquoi ?
Je pense que, en tout cas en tant que non-encarté, je pense que le fonctionnement à gauche des partis politiques bloque toute alliance au niveau national. C'est vrai que moi, en étant non-encarté... c'est une liberté assez importante au sein de ma candidature que d'autres ne peuvent peut-être pas avoir.
D'accord, très bien. Bon, en tout cas, donc on aura des candidats différents, mais sur une circonscription que tout le monde pronostique plutôt à droite, et donc la gauche divise ses chances.
Ah, on divise nos chances, comme on l'a fait au présidentiel. Hein. Moi, je rappelle que j'ai fait la campagne pour Jean-Luc Mélenchon, mais aussi tout au long de cette campagne pour l'union des gauches et de la gauche, puisque j'estime qu'il n'y en a qu'une, même s'il y a des divergences. C'est vrai qu'avec Benoît Hamon aussi, on était proches au niveau du programme. Là, on divise sur un territoire qui a besoin cruellement de social, de politique environnementale. Et donc, je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça vaut pour aujourd'hui, mais aussi pour la reconstruction de la gauche et pour demain.
Plus généralement, que pensez-vous tous les deux de la situation politique? On a des partis en pleine décomposition, recomposition. Comment vous voyez cette situation depuis la présidentielle?
Depuis la présidentielle, d'abord, on a un cas tout à fait inédit, c'est qu'on a un candidat qui ne se revendique ni de gauche ni de droite, même si pour nous c'est impossible d'être ni de gauche ni de droite. Quand on a des convictions, elles sont forcément portées par une idéologie qui se classe à gauche ou à droite. On estime que c'est dangereux, en fait, de ne pas avoir d'opposition, même si on n'est pas de droite. On estime que la droite joue un rôle démocratique au sein du pays. Et donc, cette position-là d'Emmanuel Macron nous paraît dangereuse. Après, pour la gauche, en tout cas, moi, en étant non encarté, je suis non encarté aujourd'hui parce que je ne me retrouve dans aucun parti et je trouve que les partis sont assez anciens et déconnectés des défis contemporains. Et je pense qu'aujourd'hui, en ayant cette décomposition de la gauche, ça crée un espace où on pourra reconstruire quelque chose de nouveau, peut-être sur des bases plus solides, des bases plus communes, notamment sur l'environnement, où il y a eu un gros effort de fait de la part de la gauche depuis 2012 sur les questions d'environnement. Et je pense que tout cet espace qu'a dégagé Emmanuel Macron par sa politique, en prenant l'aile droite de la gauche, nous laisse carte blanche pour reconstruire pour demain, et moi me laisse optimiste pour la gauche de demain.
Optimiste pour l'unité, donc.
Exactement.
Allons un petit peu plus dans le fond des choses. Donc, alors, on rappelle que les élections législatives sont des élections qui se passent à l'échelle locale, mais qui ont un enjeu purement national, c'est-à-dire qu'on vote les lois et on donne une majorité ou pas au président de la République. Et donc, toutes les questions de fond sont des enjeux nationaux. Alors, si vous voulez bien, on va pouvoir commencer peut-être par l'une des choses les plus d'actualité, c'est votre vision sur l'Europe et, incidemment, sur l'économie.
Moi, sur l'Europe, en tout cas, je suis né en 1995, donc pour moi, l'Europe, c'est une évidence. C'est vrai qu'il y a eu quelques désaccords avec la gauche sur les questions d'Europe. C'est vrai que l'Europe, telle qu'elle est construite aujourd'hui, ne nous convient pas, puisqu'elle est faite de façon ultralibérale. Donc c'est l'Europe pour le productivisme, l'Europe pour le capitalisme. Et c'est vrai que nous, on est pour une Europe sociale, mais on est concrètement et profondément pour l'Europe. J'ai moi-même un diplôme Erasmus+, j'ai voyagé à travers l'Europe et j'ai pu travailler dans des pays européens. Et pour nous, c'est une accroche qu'on ne voudra jamais laisser, puisque c'est un vecteur de paix et une chance qu'on a pour notre génération, parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a 70 ans, l'Europe, c'était un peu le chaos à nos portes. Et en tout cas, moi, j'estime que l'Union européenne et la construction européenne a été une chance pour ma génération. Après, c'est vrai que pour l'économie, nous revendiquons une Europe qui est plutôt une Europe sociale, une Europe solidaire, où on se bat tous pour les conditions des travailleurs, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur pays, pour que le partage des richesses se fasse aussi bien dans les pays de l'Ouest que dans les pays de l'Est. Voilà, nous, on est pour cette vision-là de l'Europe, plutôt dans l'échange culturel, l'échange économique, la redistribution des richesses, mais pas uniquement le profit des entreprises, le libre marché, la libre concurrence. C'est une vision qu'on rejette pas entièrement, puisque la liberté d'entreprendre reste quelque chose de fondamental, mais on rejette cette vision unique de l'Europe qui est une entreprise en fait géante qui sert à faire de la compétitivité.
Et vous croyez que c'est possible de changer l'Europe? On a vu François Hollande briser ses élans dès les premiers mois après son élection. Ça demande une position extrêmement forte de la part d'un pays pour...
Oui, ça demande une position extrêmement forte, mais je pense que la France est un pays extrêmement important dans l'Union européenne, en tout cas la deuxième puissance de l'Union européenne. Donc la position déjà est de fait importante. Après, tout ce qui s'est passé ces dernières années sur l'ensemble de l'Union, il y a beaucoup de pays qui sont un peu pris à la gorge par les politiques d'austérité qui ont été mises en place par l'Union européenne. Je pense qu'il y a un socle, en tout cas, à concrétiser, à consolider autour de cette Europe sociale, et que beaucoup de pays, notamment des pays du Sud comme la Grèce, le Portugal, pourraient être porteurs de cette nouvelle Europe.
Et vous parliez de la Grèce, justement, en parlant de l'Europe. Vous vous sentez proche de ces mouvements en Grèce, en Espagne, Syriza, Podemos?
On se sent proche, oui, mais sachant que la France a une histoire politique assez exceptionnelle et assez, assez propre à elle. C'est vrai que on a un marqueur fort dans les partis politiques. Là, il y a eu un effacement des partis politiques du côté de Syriza et du côté de Podemos en Grèce et en Espagne. Moi, je pense que la France peut construire quelque chose sur un parti, en tout cas un socle ou une association de partis, mais pas en balayant. Déjà, d'une part, de la quantité de population, la population qu'on a en France est beaucoup plus importante qu'en Grèce et en Espagne. Le rapport aux politiques, le rapport aux institutions, la Ve République, c'est quelque chose qui marque quand même beaucoup et qui freine, ou en tout cas qui différencie ces élans citoyens qui se sont produits dans les autres pays. Donc oui, on est proche, mais pas de la même façon, parce que notre histoire est assez singulière.
D'accord. Alors, vous parliez d'évolution sur l'écologie, notamment à gauche, depuis quelques années. Quelle est la vision sur l'écologie, justement, sur l'environnement que vous portez aujourd'hui ?
C'est une vision... déjà, le choix de Muriel Laurent a été évident sur cette question d'environnement, puisque c'est une spécialiste de l'environnement, et on a assez cette symbiose au niveau de l'environnement. C'est vrai que nous, on le met en premier. D'ailleurs, dans notre tract, c'est le premier point qu'on aborde, c'est produire autrement pour l'environnement. Pour nous, l'environnement, c'est vraiment comme une renaissance, comme un nouvel humanisme, où on place l'environnement au cœur des problématiques actuelles. C'est vrai que on ne peut pas, en tout cas, enlever le lien que l'environnement a avec les politiques sociales, avec les politiques économiques, avec les politiques d'égalité. Tout est lié sur l'environnement, donc nous, c'est vraiment le sujet central de notre programme.
On a un pays en pleine désindustrialisation où on ne peut plus faire face à nos besoins. 60% est importé. Pour l'économie agricole, c'est 40% de nos produits qui proviennent de l'étranger, de faible qualité. À côté de ça, on a des grands défis pour la planète, mais y compris sur notre territoire, qui est en pleine évolution démographique, avec des problèmes de pics de pollution, de transports en commun qui ne font pas face à tous nos déplacements grandissants. Sur tous ces axes-là, nous, on dit qu'il faut y aller. Il y a une économie de l'environnement par rapport aux voitures propres, par rapport aux transports en commun, par rapport à l'économie agricole. Il y a plus d'un million d'emplois en France qui ont été perdus par cette désindustrialisation dans les 10 dernières années. Il y en a au moins un million qui peuvent faire face à ce défi environnemental.
Et alors, comment on fait ?
En tout cas, on prend en compte dans nos choix politiques l'environnement, c'est-à-dire qu'on contrôle peut-être plus les entreprises qui polluent au lieu de contrôler le particulier. Là, on est sur une politique qui victimise, par exemple, le particulier qui va avoir deux voitures pour aller au travail. On n'est pas sur cette position-là, mais on est plutôt sur une politique de régularisation, de planification de l'écologie en France. Et je pense que nous avons les capacités, en tout cas, d'investir massivement dans l'innovation, dans la recherche, dans les études, parce que la France est aujourd'hui un pays, voilà, on est loin, moi je suis loin d'être fataliste hein, sur ce pays-là, on est un pays qui est un des pays au monde qui est le plus avancé sur les questions d'environnement. Donc aujourd'hui, il faut pousser la recherche, il faut arrêter les politiques d'austérité et renforcer notre investissement dans l'innovation, dans l'appui aux entreprises qui veulent se renouveler, l'appui à la recherche et...
Sur le plan local, donc investir sur tous les transports urbains ou interurbains en site propre qui sont vraiment une politique nationale et aussi, pourquoi pas, aller sur des politiques qui peuvent aller jusqu'à des transports urbains gratuits pour justement minimiser tous les déplacements. Donc bien sûr, ça c'est une politique nationale et c'est bien pour ça qu'on souhaite qu'il y ait une forte opposition qui se mette en place pour porter ces projets-là.
Et alors sur l'écologie, la question peut-être qui fâche un peu de temps à autre à gauche, c'est celle du nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
En tout cas, j'ai une position assez nette hein, sur le nucléaire, c'est qu'il faut en sortir. Je pense que c'est une énergie qui est... pour l'instant, qui a permis à la France d'avoir autant. Voilà, il ne faut pas être hypocrite non plus. Le nucléaire a beaucoup servi en France. Sauf qu'il y a trop de répercussions sur les déchets, notamment au cours de mes voyages en Afrique ou en Europe de l'Est. J'ai pu rencontrer des gens qui étaient face aux déchets, à nos déchets nucléaires, qui avaient ces répercussions de déchets. Et donc, je pense qu'on doit concrètement sortir. Après, c'est vrai que j'aimerais sortir le plus vite possible, mais il faut contrôler, voilà, il ne faut pas dire des chiffres pour dire de, voilà, on va sortir. Nous, on souhaite sortir, mais on veut être aux côtés des experts qui connaissent le nucléaire, qui nous disent c'est faisable dans tant de temps. C'est vrai que nous, on va vouloir le plus rapidement possible, mais on ne va pas vouloir que la politique de retrait du nucléaire soit trop brutale pour pas qu'on plonge la France dans le charbon comme ça a fait en Allemagne ou dans d'autres énergies qui sont aussi polluantes.
Oui, a priori, personne n'aura envie de voter pour quelqu'un qui va replonger la France dans le noir tout de suite, de toute façon. Voilà, alors le temps passe, il nous reste 3 minutes 45 à peu près, un petit peu plus, peut-être une quinzaine de secondes en plus. Je vais vous laisser un petit peu aborder ce que vous souhaitez, mais peut-être d'abord, parce qu'on est dans une radio éminemment culturelle, j'aurais envie que vous me disiez un petit mot de culture, de politique culturelle.
Moi, j'ai un petit mot sur la culture. En tout cas, personnellement, j'ai grandi à Bourgoin-Jallieu, dans une famille modeste. Et je pense qu'en France, la culture est très peu accessible, finalement, pour ceux qui souhaitent l'avoir. C'est vrai qu'on est très peu en contact. Je prends par exemple la musique. C'est vrai que j'étais dans une famille où il y avait très, très peu de contact avec les instruments. Et j'aurais aimé qu'on m'apprenne un instrument de musique. Et finalement, il n'y a pas eu cette rencontre entre la musique et moi, par exemple. Et je pense qu'il faut développer en France cet attrait pour la culture, mais aussi cette politique d'égalité, d'accès au savoir. C'est vrai que je pense qu'il faut agrandir le domaine public de la France sur la culture. Je pense qu'il faut rapprocher les bibliothèques des quartiers populaires, des zones rurales aussi. Voilà, je pense qu'il faut rapprocher la culture au maximum des personnes, notamment par le biais des TAP qui ont été mis en place, les temps périscolaires à l'école primaire. Nous, on était pour les TAP, mais seulement gratuits. Voilà, ce qui n'a pas été mis en place sur la commune de Bourgoin-Jallieu et sur d'autres communes. On était pour les TAP gratuits parce qu'on estime que ces TAP-là sont des temps qui vont permettre aux enfants de découvrir un milieu culturel qu'ils ne connaissaient pas ou qui n'avaient pas accès.
La médiathèque sera en quartier populaire. La médiathèque sera en quartier populaire. Par contre, vous disiez qu'il faut rapprocher les bibliothèques des...
Oui, oui, mais sachant que on prend à Bourgoin le quartier de Champfleury, il y a un préfabriqué de quelques mètres carrés avec une proposition de livres assez restreinte. Et je pense pour un quartier de 7000 habitants où il y a beaucoup de jeunes, c'est très très peu comme accès à la culture.
Ça marche. Bon, on n'est pas dans les enjeux purement bergaliens aujourd'hui. Et il nous reste un petit peu de temps. Qu'est-ce que vous avez envie de présenter le plus dans votre programme aux électeurs, aux auditeurs ?
Nous, c'était beaucoup l'environnement, mais c'est aussi le travail. C'est vrai qu'on a lutté dès l'adoption de la loi travail jusqu'à aujourd'hui. On lutte encore contre cette loi travail. On propose une autre vision du travail. En tout cas, moi, j'ai pas envie de vivre cette régression-là à mon âge qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on se bat pour une retraite tôt, on veut revenir à la retraite à 60 ans. Mais par contre, c'est pas une proposition qu'on fait au vent comme ça. On veut vraiment repartager le travail en proposant les 32 heures, c'est-à-dire qu'on veut limiter le chômage et même le rendre absent en proposant les 32 heures, en partageant le travail entre tous. Et une des mesures phares de notre programme, c'est d'ailleurs de proposer l'abrogation totale de la loi travail si nous sommes à l'Assemblée.
Alors, ce qui va complètement à l'opposé de ce qui va se faire, a priori, avec Exactement. La volonté de gouverner par ordonnance d'Emmanuel Macron pendant cet été. Donc j'imagine que, élu ou pas élu dans l'opposition, bon, non seulement vous avez une candidature pour qu'il y ait une opposition forte à ceci, mais vous serez dans la rue en septembre.
On sera dans la rue en septembre, comme on l'a été auparavant. C'est vrai que nous, on a l'habitude de mener les combats sur le terrain. Et ces ordonnances reflètent aussi quelque chose, un point de désaccord, c'est les institutions, parce que nous, on défend le passage à une 6e République pour notamment empêcher le président de la République de mener tout seul son fer de lance, de dire on veut passer cette réforme du droit du travail en un été sans les parlementaires, donc on le fait. Donc ça montre encore un point de divergence qu'on a avec Emmanuel Macron, et nous proposons une 6e République où on replace le citoyen et le parlementaire au cœur de la vie démocratique du pays.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu à Couleur FM. Je vous rappelle que vous venez d'entendre Mehdi Sarraoui et Muriel Laurent qui font une candidature vers l'unité de la gauche, mais en tout cas pour l'instant soutenue essentiellement par le Parti communiste français et le Front de gauche. Merci à vous.
Merci. Au revoir.